Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Bon, il y a eu un point de presse du gouvernement à 13h pour une annonce majeure. Tous les employés du réseau de la santé publique et privée doivent se faire vacciner d'ici le 15 octobre, sans quoi ils sont suspendus sans solde. On en parle immédiatement avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé. Monsieur Dubé, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, pourquoi cette annonce-ci à ce moment-là?
Ben écoutez, on attendait la réponse formelle de la santé publique parce que, rappelez-vous, il y a à peu près 2 semaines, quand on est allé en commission parlementaire, on y allait avec une recommandation préliminaire. Je dois vous dire que la recommandation n'a pas beaucoup changé. Là, il y a eu des ajustements suite à la comparution des différents experts qui sont venus, etc. Donc, aussitôt que nous, on a un avis formel du docteur Arruda, il faut le mettre en place.
OK. Donc là, ça ne touche plus seulement les employés de la santé qui étaient en contact 15 minutes ou plus avec des patients vulnérables. Ça inclut tout le monde, même par exemple des employés de bureau.
Oui, tout à fait, M. Lagacé. Parce qu'en fait, lorsqu'après avoir écouté, je ne sais pas dans quel niveau de détail, mais je pense que je suis ça de pas mal proche, il y a des associations de médecins, par exemple, FMOQ, FMOSQ, les spécialistes, qui nous ont dit, écoutez, c'est pas pratique votre 15 minutes, là. Comment on va faire pour différencier les gens? Les gens dans un établissement, ils lunchent ensemble, que ce soit des gens du niveau administratif ou du niveau patient. Fait qu'après discussion avec le docteur Arruda, on voulait quelque chose de très pratique, de très terrain. Alors, on s'est entendu que le critère du 15 minutes, il n'était pas opérationnel. On a décidé de pas l'appliquer.
Il y a beaucoup de Québécois qui nous écoutent, qui se font traiter pour divers types de mots, monsieur le ministre, dans des cliniques privées, en chiropratie, en ostéopathie, massothérapie, physio. Est-ce que ces gens-là sont visés par la vaccination obligatoire?
La réponse est oui. Moi, j'aime mieux aller d'un principe plus large. D'ailleurs, je vous rappelle encore qu'en commission, il y a beaucoup d'associations qui représentent ces différents professionnellement. On n'a pas pu tous les passer parce qu'on était limité, mais on a eu des avis que ces gens-là disent on aimerait mieux que ça soit appliqué le plus largement possible. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des discussions dans les prochains jours, mais je le répète, il faut que les gens soient vaccinés d'ici le 15 octobre.
Comment vous allez contrôler ça? Je pense à un chiropraticien, à une massothérapeute qui a sa propre clinique. Qui va surveiller si la propriétaire clinicien est bel et bien vaccinée?
Bien, premièrement, il faut que, justement, l'association qui représente ces professionnels-là envoie un mot d'ordre très clair là, au cours des prochains jours pour dire, écoutez, suite à cette recommandation-là, on vous demande de vous faire vacciner. Maintenant, c'est un peu le détail, ça, c'est à nous, avec notre santé publique, de voir comment la mécanique va être appliquée. Mais je pense que les associations veulent tellement protéger leurs responsabilités. Puis on l'a vu, là, c'est pas juste dans les hôpitaux que c'est fragile, hein, c'est dans les cliniques aussi, etc. Donc, je pense que ça va être une collaboration entre les différentes associations professionnelles et notre santé publique, là, à s'assurer qu'on l'applique.
L'employé du public, M. le ministre, qui refuse de se faire vacciner va être suspendu sans solde. La personne qui opère une clinique de massothérapie, de physiothérapie, de chiropratie, qui ne veut pas se faire vacciner, elle se suspend elle-même?
Bien, écoutez, on va voir comment la mécanique va fonctionner, mais c'est toujours le même principe. Je vais vous faire une mauvaise comparaison avec les restaurants. On a réussi à garder les restaurants ouverts. Et on a dit aux gens, bien, si jamais, puis il n'y en a pas beaucoup, là, mais il y en a quand même qui disent qu'ils ne voudront pas respecter le passeport vaccinal, mais on a dit, vous n'aurez pas le choix de fermer. Moi, je pense qu'un chiropraticien, avant de décider de fermer sa pratique, va se dire, ben peut-être que je devrais faire un effort ou m'assurer que mes employés sont vaccinés. Alors donc, c'est pas notre premier défi. Puis moi, je vous dis, on va... Mais ce qu'on veut, là, puis je pense que les gens le comprennent, on veut un réseau de la santé qui soit plus fort, il est très fragile, puis surtout dans les 2 prochains mois, on veut s'assurer qu'on protège le plus de possible de gens. Autant les patients que le personnel lui-même.
OK, on est le 7 septembre, M. Dubé, et quand la vaccination au Québec a pris son élan, il y avait encore de la neige au sol. En juin, on a appris qu'une dame de l'Estrie, Mme Céline Hadd, était traitée par un cancer. Ben, elle a probablement été infectée par un employé non vacciné dans son hôpital local, OK? Trouvez pas que d'annoncer la vaccination obligatoire pour les travailleurs de la santé, qui était réclamée par beaucoup de monde depuis longtemps, c'est pas mal tard dans le game en septembre.
Ben écoutez, M. Lagacé, là, je pense qu'on a démontré qu'on a toutes faites les étapes qu'il fallait faire pour le faire de façon volontaire. Je pense qu'on y a rien là, qu'on aurait pu faire de plus pour s'assurer que tous ceux qui pouvaient se faire vacciner. Est-ce qu'on aurait pu le faire avant? Ben, c'est toujours facile de dire après. On a quand même 92% aujourd'hui des gens qui le sont, mais ce 92%-là fait qu'il y a le 8% à date d'aujourd'hui qui reste. Dans le public seulement, c'est 30 000 personnes. Alors, je pense qu'on a tout fait pour aller chercher le 92, mais là, malheureusement, il faut passer par la vaccination obligatoire. Puis c'est ça qu'on fait là, dans les prochaines semaines, pour qu'au 15 octobre, ben, il y a le maximum de personnes qui soient vaccinées.
Monsieur Dubé, dans le point de presse de 13 heures, vous et le premier ministre avez beaucoup parlé du caractère fragile de la capacité hospitalière. Expliquez aux gens c'est quoi la capacité réelle de traitement de patients aux soins intensifs, puis pourquoi est-ce que c'est si fragile à ce stade-ci?
Ben, premièrement, il faut trois choses, Monsieur Lagacé. Je vais essayer d'y aller rapidement, mais c'est important votre question. Premièrement, lorsqu'on a commencé la première vague, il y a maintenant presque 18 mois, on avait environ 2000 lits qui étaient disponibles, autant pour les hôpitaux que pour les soins intensifs. Mais ce qui s'est dégradé depuis ce temps-là, c'est qu'on a perdu beaucoup de personnel. Beaucoup de personnel. Alors, c'est pas tellement le nombre de lits qui est important, c'est est-ce qu'il y a du personnel dans les lits pour traiter les patients COVID. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la réalité, ce qu'on appelle la capacité réelle avec du personnel, elle est d'à peu près 600 personnes du côté des hospitalisations, puis un petit peu moins que 200 du côté des soins intensifs. C'est pas beaucoup, ça. Et le troisième point, c'est que notre réalité, c'est que la plupart des cas sont à Montréal. Alors, quand je regarde aujourd'hui aux soins intensifs, c'est pas 200 de lits disponibles qu'on a à Montréal, c'est un petit peu plus que 100, 110 pour être exact, puis j'en ai déjà la moitié qui sont occupés. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est que si on continue d'augmenter le nombre de personnes à Montréal aux soins intensifs, ben, je vais être obligé de refaire encore du délestage. Puis nous, ce qu'on dit, c'est pas vrai que c'est les vaccinés qui vont, les non-vaccinés, je m'excuse, qui vont continuer de brouiller les cartes, puis qui vont empêcher des gens qui attendent pour une chirurgie de pouvoir accès au système de la santé. Alors, c'est un peu ça qu'on dit aujourd'hui. Oui, on va s'occuper d'essayer de renforcer le réseau, d'engager des infirmières, mais ceux qui sont pas vaccinés, c'est votre responsabilité. Vous êtes en train de prendre la place de quelqu'un dans le réseau qui devrait, lui, avoir une opération de hanche ou avoir un parc. Je prends juste aux soins intensifs. C'est des chirurgies cardiaques. On parle de questions de vie ou de mort. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'on est très clair. Les non-vaccinés, c'est eux autres qu'on vise puis qui doivent comprendre que ça fait très mal à notre système de santé.
OK. Dernier point, Monsieur le ministre. Là, je ne vais pas vous mettre sur les épaules 25 ans de problèmes dans le système. Là, on parlait il y a 25 ans de temps supplémentaire obligatoire, d'épuisement des infirmières, mais ça fait 18 mois que la pandémie est commencée. On le sait qu'on a un problème de rétention. Encore aujourd'hui dans la presse, là, Émy Coutu, une infirmière, racontait pourquoi elle quitte le métier. C'est parce qu'elle est en train de s'épuiser. Comment ça se fait qu'on a encore... Pourquoi c'est qu'après 18 mois de pandémie, on n'a pas réglé ça encore?
Il y a plusieurs enjeux, puis moi, j'en prends la responsabilité. Je pense qu'on a essayé d'avoir... Regardez, là, quand on avait nos pires vagues, là, la deuxième, troisième vague, on est allé chercher des gens avec Je contribue. Mais je vous le dis, en parallèle à régler ce que j'appelle, moi, qui est important, les urgences, tout le personnel de ce que vous parlez, il a fallu régler la pandémie. Puis en même temps, on a réussi à baisser... Il n'y a plus d'enjeux dans les CHSLD. Comparé ça à la première vague, je pense qu'on en a réglé des problèmes. Mais au fur et à mesure qu'on a avancé avec la quatrième vague, nos infirmières sont épuisées. Moi, je la comprends, Émilie, là, et toutes les autres qui ont décidé qu'ils abandonnaient le navire parce que c'est excessivement difficile. Alors, avec le premier ministre puis avec mon collègue Jean Boulay au travail, on est en train de regarder avec toutes les associations de professionnels, l'ordre des infirmières, etc. On parlait à nos syndicats ce midi. Je pense que les gens réalisent maintenant qu'il faut regarder ça autrement parce que effectivement, on va vivre encore avec le virus encore pendant plusieurs mois. Là, c'est ce que j'ai dit au cours des derniers jours. Puis vivre avec, ben il faut demander à notre personnel de trouver des façons de travailler, de former plus rapidement des infirmières auxiliaires. Moi, je tiens absolument à éliminer le temps supplémentaire obligatoire, mais ça me prend du monde pour venir m'aider. Donc, c'est un petit peu ça que le premier ministre a passé comme message aujourd'hui.
Merci, le message est lancé, M. Dubé. Bonne journée.
Au plaisir, M. Lagacé. Merci beaucoup.
Salut, c'était Christian Dubé, ministre de la Santé.
Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Avec deux entrevues pour commencer l'émission parce que, bon, les cas d'infection continuent à augmenter. Ça ne provoque pas un tsunami dans les hôpitaux, là. Mais quand même, il y a des signes inquiétants. On va en parler immédiatement avec deux médecins. D'abord, Dr. Normand Blais, qui est hémato-oncologue au CHUM et aussi vice-président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Dr. Blais, bonjour.
Bonjour, M. Lagacé.
Dr. Blais, merci d'être avec nous. J'ai vu votre message sur Twitter où vous disiez que vous deviez reprendre des gardes COVID et délaisser vos patients qui ont le cancer. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, ça?
À deux reprises, dans la pandémie, il y a eu des listes de garde qui ont été faites au CHUM puis dans d'autres hôpitaux du Québec pour mobiliser les médecins des hôpitaux qui n'étaient pas des internistes ou qui n'étaient pas des médecins spécialisés en infection pour couvrir le surplus de patients dans les hôpitaux atteints de COVID. Ça implique des cardiologues, des gastro-entérologues, des oncologues, des hémato-oncologues. Donc, plusieurs médecins qui ont d'autres tâches à faire que s'occuper de la COVID, qui doivent délaisser leur clientèle pour s'occuper des patients hospitalisés.
Donnez-nous, s'il vous plaît, Dr. Blais, là, un exemple de ce que ça signifie là, concrètement, humainement, ce que vous appelez délaisser la clientèle.
Bien, ça veut dire qu'à tour de rôle, on va être appelé pour laisser nos cliniques, laisser nos listes d'attente pour aller passer une semaine sur un étage de patients atteints de COVID. Donc, il y a un tour de rôle. Donc, la charge est répartie à travers différents médecins, mais ça n'en laisse pas moins que nous, on est déjà utilisés au maximum. Nos listes d'attente sont déjà remplies, puis encore plus que jamais avec le retard accumulé par la COVID, qu'on ne peut pas vraiment se permettre de passer des journées à l'extérieur de nos cliniques sans laisser de tomber ou laisser de côté nos patients qui sont en attente.
Quel type de mots est-ce que vos patients qui sont atteints de cancer ou qui soupçonnent avoir un cancer ne pourront pas voir être soignés pendant que vous êtes sur un étage COVID?
Bien, c'est plus une question d'attendre encore plus parce que dans les deux grosses phases hospitalières de la COVID qu'on a vécues, les patients ont attendu. On a vu des patients se présenter avec des maladies, des cancers, ça n'attend pas. Hein. Donc, on a vu des patients avec des cancers beaucoup plus avancés qui étaient trop malades pour pouvoir avoir des traitements. On sait c'est quoi l'impact que ça a apporté. Au cours des trois derniers mois, les choses s'amélioraient un peu. Mais au moment où on pense qu'on commence à voir de l'avant, il y a cette réalité-là d'une autre vague hospitalière qui arrive. Ça, c'est quand même très décourageant.
Je vais vous poser la question que je vais poser à Dr. Joseph Daïn tantôt, qui est médecin intensiviste. Le gouvernement a annoncé là, que si le 15 octobre, on travaille dans le milieu de la santé, privé ou public, et qu'on n'est pas doublement vacciné, ben c'est la suspension sans solde. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou vous trouvez qu'il y a peut-être des effets imprévus à cette mesure-là qu'on voit pas?
Bien, il y a des effets imprévus, mais je suis d'accord pour la raison que moi, particulièrement, je travaille avec des gens à risque, immunosupprimés, qui n'ont pas la chance de d'autres personnes d'avoir une réponse adéquate au vaccin. La grande, grande majorité de mes patients sont vaccinés, ils veulent être protégés, mais compte tenu de leur maladie, de leur traitement, ils ne peuvent pas avoir la protection adéquate. Donc, c'est le rôle des médecins, c'est le rôle des infirmières, c'est le rôle des préposés, c'est le rôle de tous les personnels, de tout le personnel qui supporte ces patients-là, de leur offrir la protection maximale, à mon avis.
Docteur Blais, je vais vous lire, ma messagerie est ouverte, là. Il y a un message qui me parvient de quelqu'un qui écoute l'émission. Je vous préviens, c'est un peu carré, mais j'ai souvent entendu ce message-là depuis 18 mois, et j'aimerais ça que vous expliquiez, là, fassiez un peu de pédagogie en réponse, OK? Quelqu'un m'écrit « Donc, c'est moins grave, laisser mourir les gens qui ont le cancer comparé aux gens qui ont la COVID. » Qu'est-ce qu'on répond à ça?
Ben, on veut pas laisser mourir personne. Donc, moi, premièrement, si je suis appelé à couvrir un étage COVID, je vais le faire. Pas de gaieté de cœur parce que je laisse tomber mes patients avec cancer d'une certaine façon, comme je l'ai expliqué, mais on veut quand même soigner tout le monde. La réalité, c'est que plus les gens vont être vaccinés, plus les gens vont faire attention dans leurs expositions à l'extérieur, mais plus on va pouvoir éviter des situations d'hospitalisation. On sait que le vaccin est très, très, très bon pour éviter les hospitalisations puis les maladies sévères. Donc, c'est vraiment la meilleure façon pour décharger le système hospitalier puis qu'on soit capable de traiter tout le monde adéquatement.
Traduction, si tout le monde était vacciné, vous n'auriez pas à quitter votre unité de cancérologie.
Bien, je pense que ce qu'on voit aux États-Unis, dans des populations qui sont beaucoup moins vaccinées que nous, nous sert d'exemple qu'au Québec, on est quand même mieux qu'ailleurs, mais il y aurait moyen d'être encore beaucoup mieux.
Merci de nous avoir parlé aujourd'hui. Bonne journée.
Bonne journée.
Salut, c'était Dr. Normand Blais, hémato-oncologue au CHUM. Je me tourne maintenant vers un autre médecin, Dr. Joseph Dahine, qui est médecin intensiviste à l'hôpital Cité de la Santé de Laval. Dr. Dahine, salut.
Bonjour.
J'ai vu un autre, vous aussi, j'ai vu un message sur Twitter, Dr. Dahine, où vous faisiez état des statistiques d'hospitalisation en soins intensifs. Qu'est-ce qui vous inquiète quand vous regardez les soins, les taux d'hospitalisation là des derniers jours?
Bon, on n'a pas besoin d'être un bolet en mathématiques pour interpréter les chiffres. Ça monte, puis ça monte vite. Quand on regarde les patients hospitalisés aux soins intensifs, dans les 5 derniers jours seulement, il y a 19 patients de plus aux soins intensifs, ça c'est le chiffre net, et avec la capacité du Québec que nous donne le ministère de la Santé et des Services sociaux, ça représente 11%. Donc, on est déjà rendu sur tous les soins intensifs possibles réservés pour la COVID, 40% sont occupés. Mais ce qui est encore plus intéressant et je pense significatif, c'est regarder les chiffres bruts en 5 jours. C'est 42 patients qui sont sortis aux soins intensifs, qui sont rentrés, pardon, aux soins intensifs. Il y en a qui sont sortis, c'est pour ça que c'est net juste 19,
oui.
Mais 42 sont rentrés. Ça veut dire qu'il y a 42 Québécois qui, en ce moment, se luttent pour leur survie dans une unité de soins intensifs du Québec, se battent contre la COVID.
OK, docteur, 40% d'occupation aux soins intensifs. Je vais essayer de voir le côté positif des choses, là, puis anticiper certains contre-arguments qu'on pourrait vous servir. Il y a toujours un espace de 60%. C'est quoi le problème?
Ben, c'est que cet espace-là, à la vitesse où les hospitalisations montent, va diminuer de plus en plus. Donc ça, c'est l'aspect numéro un, c'est-à-dire que ça sent le délestage à plein nez. C'est que oui, cette capacité-là demeure, mais je vous garantis qu'elle va être épuisée dans les prochaines semaines. C'est garanti, ça monte trop vite. C'est le même film que durant la première, deuxième et troisième vague. Ensuite, ben, les COVID luttent ou combattent, se disputent les mêmes ressources que les patients non-COVID. Donc, toutes les autres maladies, les conditions médicales, les conditions chirurgicales qui nécessitent également un lit aux soins intensifs. Donc, les deux groupes, COVID, non-COVID, se disputent les mêmes ressources limitées et ces ressources-là diminuent de plus en plus. Pourquoi? Parce que le personnel diminue de plus en plus. Il n'y a pas de deuxième, troisième ou quatrième trio envoyé sur la glace. Les mêmes médecins, infirmières, préposés, inhalos qui étaient là durant toutes les vagues précédentes, sont de retour, encore une fois, sur les unités de soins intensifs, parfois pour certains d'entre eux, sans avoir pris de vacances encore, à soigner et les COVID et les non-COVID. Et c'est sûr qu'il n'y a pas la même réserve d'énergie qu'il y avait en mars 2020.
Là. Dans votre unité de soins intensifs à la Cité de la Santé à Laval, Dr. Dahine, là, c'est quoi le profil type des gens? D'abord, tu sais, allons-y avec l'âge, puis après ça avec vaccinés ou non-vaccinés.
Donc, 5 patients aux soins intensifs à Cité de la Santé, 14 dans l'hôpital au grand complet. une proportion où il y a, je dirais, plus de jeunes, donc entre 30 et 60 ans, exceptionnellement, là, quelques personnes très un petit peu plus âgées, là, 70 ans. Mais là, je vous dirais à peu près là, 80% des patients là, entre 30 et 60 ans. Et sur les 5 patients aux soins intensifs, aucun d'entre eux n'est complètement vacciné. Dans l'hôpital, je pense qu'il y en a 2 là, qui ont eu leurs 2 doses. Donc, de loin, la population qui se présente pour des soins hospitaliers à cause de la COVID, c'est des patients qui n'ont pas été vaccinés adéquatement.
Dès le 15 octobre, les employés du réseau de la santé qui ne seront pas doublement vaccinés, Dr Dehaene, vont être suspendus sans solde. Est-ce que c'est une mesure qui est accueillie favorablement chez vous?
Oui, c'est sûr que la décision est courageuse parce que c'est une question sensible pour les raisons que l'on connaît. Mais la réalité, c'est que c'est une bonne décision pour 2 raisons. La première, c'est que le virus va trouver le moyen d'infecter les gens vulnérables. Qui est vulnérable, c'est les gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, ces gens-là vont tomber en maladie à un moment donné parce qu'ils vont être infectés par la COVID. Et donc, ça va se traduire par une perte de personnel. Donc, s'ils quittent parce que là, on les oblige à être vaccinés, ben là, au moins, on le sait d'avance, alors que si on les laisse s'infecter, ben on va savoir le jour même qu'ils tombent malades. Donc ça, d'un point de vue logistique, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude, même que ça nous permet de voir venir les absences. D'un point de vue plus déontologique, qui est le deuxième argument, qui est super important pour moi, c'est sûr que si tu es dans le domaine et que la raison pour laquelle tu ne te fais pas vacciner, c'est parce que tu ne crois pas en la science, tu ne crois pas en l'expertise des autres, ben tu es en contradiction avec ce qu'on fait au quotidien. Moi, je suis intensiviste. Je vais m'occuper des patients en soins intensifs. Mais je les opère pas. Je suis pas chirurgien. Quand j'ai besoin que mes patients bougent, je suis pas physiothérapeute. Je fais confiance à l'expertise du physiothérapeute. Je suis pas immunologue. C'est pas moi qui fais les vaccins. Je fais confiance à l'expertise de ceux qui ont fait en sorte qu'on a un vaccin qui, à l'heure actuelle, a été administré à plus de 5 milliards de personnes, 5 milliards de doses administrées dans le monde. Alors, pourquoi est-ce que quand on te demande à chaque jour de faire confiance aux expertises de tes collègues, là, pour une science qui est prouvée, toi, tu sais la vérité, mais tu ferais pas confiance à ceux dont c'est la job de nous protéger. Donc, pour moi, il y a un conflit ici de valeurs professionnelles qui fait en sorte que pour être un modèle devant nos patients qui, eux, vont vouloir savoir si les gens qui les soignent sont adéquatement vaccinés dans le but de maintenir cette alliance thérapeutique-là, c'est le modèle, le rôle qu'on doit donner dans le réseau de la santé. Donc, pour moi, c'est conséquent à ce moment-là de prendre des mesures envers les gens qui refusent de se vacciner à l'heure actuelle.
Merci, Dr Dehaene. Lâchez pas.
Ça fait grand plaisir. Merci.
Salut, bonne journée. Il y a quelqu'un qui m'écrit, c'est quand même inquiétant qu'avec 75 personnes aux soins intensifs, on met en danger notre système de santé. Écoutez, et là, la personne poursuit en disant, avec le vieillissement de la population, il va y avoir une brisure de notre système de santé. Non, pas vraiment. Parce que, je veux dire, on est capable de prévoir combien de lits dont on va avoir besoin pour les CHSLD, par exemple. On est capable de prédire, il va y avoir combien d'infarctus dans une année. Donc, on peut, par exemple, prévoir, on a besoin de combien de ressources, de lits, de cardiologues, d'infirmières en cardiologie. On peut faire ça. Ce qui n'est pas prévu, c'est les malades qui sont aux soins intensifs, qui restent là à cause d'un virus, d'une pandémie. Ça, c'est un angle mort. Après ça, on peut se dire, hey, d'ici 20 ans, l'objectif, c'est d'avoir 3 fois plus de lits de soins intensifs. C'est vrai. Mais maintenant, avec notre capacité et les gens qui deviennent malades et qui ont besoin de soins, qui ont besoin de respirateurs, c'est une situation exceptionnelle. Après ça, le reste de l'hôpital, c'est une autre affaire, on se comprend. Et on peut pas se dire, ouais, mais le système dépend de 50 personnes de plus. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Bref, c'est un peu décourageant et espérons, on va se croiser les doigts. Il y a de plus en plus de gens, je pense, qui vont aller se faire vacciner et on n'aura peut-être pas besoin d'arriver à la capacité.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
On aime bien faire de la place dans notre émission à des personnes inspirantes là, qui font une différence à leur manière dans la société. Et notre invité aujourd'hui s'est attaqué au gaspillage alimentaire. Il contribue de façon brillante, écologique et saine à nourrir le Québec, on va dire ça comme ça. David Côté, cofondateur de la chaîne de restaurants Crudescence, de Rice Kombucha et de Loop. David, salut!
Salut, merci de m'avoir.
Pas aucun problème. Loop, c'est une compagnie d'économie circulaire. D'abord, c'est quoi ça de l'économie circulaire?
Oui, ben l'économie circulaire, en fait, ça le dit, c'est de créer de la valeur sans retirer de ressources, en fait. Fait que c'est de, contrairement à l'économie linéaire, qu'on extrait des ressources, on les transforme, on les consomme et on les jette par la suite. Puis même pendant la transformation, il y a souvent des rejets aussi. Mais l'économie circulaire, c'est qu'on regarde les rejets des autres industries pour voir qu'est-ce qu'il y a de la valeur dedans, puis on les achète à prix qui normalement est un coût pour une industrie normalement à se départir de ses ressources. Nous, on l'achète. On la retransforme puis on la revend. Fait qu'on la remet dans le cycle de valeur.
OK. Donc, vous, dans le fond, là, vous sauvez des fruits, des légumes, mais où vous les sauvez?
Oui, ben quand on a commencé il y a 5 ans, on les sauvait avec un partenaire qui s'appelle Courchain Larose, qui est un des plus grands distributeurs de fruits et légumes au Canada. Puis ils nous ont appelé puis ils ont dit qu'ils jetaient entre 16 et 25 tonnes de fruits et légumes par jour. Fait que ça
par
a été
jour?
Notre premier partenaire. Par jour, à chaque jour, dans un entrepôt de fruits et légumes au Québec. En joue, on jette 16 à 25 tonnes. C'est complètement fou, en fait. Puis c'est des fruits et légumes qui sont parfaitement beaux. Ils sont même pas si moches que ça. Souvent, c'est qu'ils sont mûrs. C'est que, tu sais, dans l'industrie, on sait pas combien qu'on va en vendre jamais. Mm-hmm. J'étais en restauration avant, puis c'est le même concept. Fait qu'on on achète toujours un petit peu plus que ce qu'on vend pour être sûr que nos clients sont satisfaits et qu'ils ont toujours de l'abondance. Puis le petit surplus qui mûrit, qui est prêt à l'entrepôt, ben il est trop mûr pour le cycle de distribution. Fait qu'on le jette, en fait, carrément.
OK, vous achetez ça, j'imagine, comme vous les sauvez, ça vous coûte moins cher que si vous aviez acheté des fruits et des légumes.
Exactement, oui. Puis en fait, ce qui se passe dans toute industrie, quand on doit se départir de la matière qu'on envoie au type d'enfouissement, il faut payer pour ça. Hein. C'est pas comme le au public là, qu'on met nos vidanges à la rue puis ils disparaissent. Là. Normalement, une industrie doit payer pour s'en départir. Fait que nous, on offre de l'argent à ces entreprises-là qui normalement en perdaient et que ça leur fait un revenu à eux. C'est pour ça que ça s'appelle économie circulaire. On n'est pas une organisme à but non lucratif qui dépend des dons. On fait vraiment, on s'intègre dans un système capitaliste, puis on fait en sorte de le changer pour l'améliorer finalement.
OK, David, je vais vous envoyer une balle courbe là, parce que vos jus, moi j'ai goûté, sont bons vos jus, mais 355 millilitres pour 4,49, c'est pas tout le monde qui peut acheter ça là, pour vrai là.
C'est même 4,99 des fois, fait que t'étais généreux sur le prix. Mais en fait, il faut comprendre qu'un jus pressé à froid, c'est un produit qui est vraiment premium, en fait. Tu sais, on regarde qu'est-ce qui se fait dans les produits en général. On fait des jus, mais on fait aussi du gin maintenant, SAQ, qui est dans un prix beaucoup plus bas que la plupart des catégories des gins. Le jus pressé à froid, c'est qu'il y a 1,5 kg de fruits et légumes dedans. Puis ce qui coûte cher, en fait, c'est pas le fruit et légumes, c'est tout ce qu'il y a autour. C'est le pressé, c'est toute la manutention derrière. Le fait qu'on le fait pas pasteuriser puis qu'on le passe dans une machine HPP qui crée une pression dessus pour garder les nutriments, ça coûte excessivement cher. Fait que c'est tout ça qui rentre en ligne de compte, en fait. Mais on fait des 1 litre maintenant à 7,99, ce qui fait qu'au prix, au millilitre, c'est vraiment plus avantageux.
Mais on s'entend, David, c'est vraiment un produit de luxe.
Non, plus maintenant, en fait, quand on prend le 1 litre, non, vraiment pas. Quand on prend le 1 litre à 7,99, si on regarde les cafés, là, les gens au Starbucks, ils s'achètent un café, puis ça coûte souvent 4,99 le café. Puis là, à la place d'avoir un café qui a pas grand-chose dedans, qui coûte à peu près 25 cents à faire, nous, c'est 1,5 kg de fruits et légumes. En fait, quand même, si vous achetez vos fruits et légumes à la maison, là, à l'épicerie, puis vous faites un jus comme le nôtre, ça va vous coûter plus cher que si vous l'achetez. Fait que c'est pour dire que c'est pas si cher que ça, en fait.
OK. Vous allez vous faire aussi vous faites des biscuits présentement avec des résidus de bière. Juste comme ça, là, la proposition, je vous le dis, David, c'est pas ragoûtant, mais je vous donne l'occasion de nous convaincre.
Oui, c'est un nouveau projet. Je savais même pas que vous le saviez. En fait, on sort ce projet-là en novembre. C'est des biscuits faits avec la drèche, c'est-à-dire toute l'orge maltée qu'on utilise pour faire la bière. C'est comme du gruau, en fait, littéralement. C'est super savoureux, puis c'est plein de nutriments. Fait que nous, on récupère ça, puis on la fait sécher, puis on en fait des biscuits, en fait. On rajoute, en plus, de la pulpe de fruits et légumes rejetés, des graines de chanvre là-dedans. Ça va se trouver en boulangerie dans les épiceries, en fait. C'est, honnêtement, là, même moi, au début, j'étais pas sûr. C'est incroyablement bon, en fait. C'est malade.
OK. Le gin, on me dit qu'il est fait à partir de retails de patates d'une compagnie de chips.
Exact. Exactement. C'est la compagnie Yum Yum, que tous les Québécois connaissent en général. C'est qu'on prend leur retaille de patates qui sont rejetées dans leur fabrication, qui sont trop petites, trop grandes, etc. On prend ça, on le distille, puis on rajoute de l'huile essentielle de lime et de gingembre, du jus frais pressé de gingembre et de lime rejeté aussi. Ça donne un lime, en fait, un gin qui est vraiment, vraiment bon. Puis c'est un des plus grands vendeurs dans sa catégorie à SAQ, en fait.
Beau modèle d'affaires de récupérer comme ça des choses qui s'en iraient au vidange. Catherine, une question pour toi, David.
David, yes. Écoute, moi, je suis une fan de vos shots. Et je suis curieuse de savoir comment... Oui, les comment shots, c'est des shots, là, tu peux avoir du citron, du poivre de Cayenne, ça revitalise le...
Oh,
le,
j'ai une petite gorgée,
ouais,
là.
Oui, c'est une petite gorgée, j'ai des mini-bouteilles. Oui. Puis je voulais que tu me parles un peu, là, pourquoi ce marché-là, c'est quoi un peu la clientèle cible, puis qu'est-ce que vous faites avec vos shots, et comment vous développez ça?
Oui, ben en fait, souvent, mes idées de produits viennent de l'Ouest, en Californie. Souvent, je vais voir ce qui se passe là-bas, puis... Je ramène ça ici parce qu'on sont souvent 5 ans en avance là-bas. Puis les shots, dans n'importe quelle épicerie, même dans les dépanneurs, puis les stations de service, il y en a là-bas. Ça fait que je me suis dit que c'est quelque chose qui allait se passer ici. Nous, on a énormément de gingembre très pressé qu'on nous offre, en fait, là, littéralement, à vraiment bas prix parce qu'il y a beaucoup de surplus dans l'industrie. Ça fait qu'on a lancé ces shots-là. On appelle ça des wellness shots en anglais ou des boosters, comme on dit en français. Puis c'est carrément du gingembre frais pressé, 50%. 50% de jus de poire qu'on met dans une bouteille de 3 onces. C'est vraiment comme un shooter, là. Puis tu bois ça, puis ça te booste ton système immunitaire. Ça te donne un petit coup de fouette aussi, là. C'est intense. On fait pas ça pour que ça goûte bon, ceux-là. Contrairement au biscuit, là, ça, c'est vraiment intense. Tu fais une grimace, mais après ça, t'es pété, puis tu continues ta journée.
Avez-vous l'impression un petit peu de changer le monde? Parce que c'est quand même noble, le recyclage. Ça va dans l'air du temps. Tout le monde en parle de l'environnement, de recyclage, de compost. Avez-vous l'impression un peu d'être au-dessus de la mêlée avec ce genre d'entreprise-là?
Bien, au-dessus de la mêlée, je ne sais pas, mais c'est sûr que le but, tu sais, la raison première qu'on a parti le projet, c'était pour réduire le gaspillage. Tu sais, notre vision, c'est d'être le leader international en économie circulaire dans le monde alimentaire. Tu sais, le gaspillage alimentaire en soi est un des plus grands créateurs de gaz à effet de serre. C'est le 3e dans le monde. C'est énorme. Fait que si c'était un pays émetteur en termes de gaz à effet de serre, c'est le 3e pays plus gros après la Chine et les États-Unis. Fait que tout ce qu'on envoie au titre d'enfouissement en termes d'aliments, là, ça crée énormément de pollution. Fait que de réduire ça à la source, ça a un impact énorme, en fait, sur l'environnement. Fait que nous, c'est ce qui nous drive à tous les jours. C'est la raison pour laquelle j'ai quitté mon autre entreprise, que ma partenaire Julie a vendu sa maison, puis on a parti ça temps plein. C'est parce qu'on avait des frissons quand on a su qu'est-ce qui se jetait, en fait, puis on veut faire une différence à notre façon, c'est clair.
À quel moment ça a décollé? À quel moment est-ce que chez Loop, vous avez vu, écoute, il y a un modèle d'affaires là-dedans là, qui pourrait vraiment être hyper lucratif?
En fait, on s'appelait Jus Loop, on avait 4 jus, c'était Julie puis moi dans mon appartement, on faisait ça même en sous-traitance, puis on commençait. On avait une belle vision, mais on savait pas que ça pourrait être aussi grand. Puis on a eu un appel de Sobase, en fait, qui nous ont dit, hey, on aimerait, nous aussi, on jette des aliments. Puis la semaine après, il y a un appel d'un agriculteur qui m'a dit, hey, moi, je jette des bleuets à coup de tonnes par année. Puis tout d'un coup, on a eu tellement d'appels, on était passé à la télévision la semaine d'avant, qu'on se rendu compte que c'était pas juste des jus qu'on allait faire. C'est là qu'on a rebrandé pour Loop Mission, puis qu'on s'est dit, OK, ben là, on va s'attaquer au gaspillage, quel qu'il est. Puis aujourd'hui, c'est pas juste les agriculteurs qui nous appellent, c'est pas juste les épiceries, c'est des grandes multinationales alimentaires, là, carrément, qui nous contactent, nous, pour dire qu'est-ce qu'on fait avec ce déchet-là. Pouvez-vous nous aider, en fait? Fait que, de ce temps-ci, je me promène, puis je regarde les déchets des autres, des autres industries, en fait, puis je trouve des solutions pour les régler, en fait. C'est extrêmement valorisant, là. Je suis vraiment content.
Mais vous vivez quand même des problèmes de croissance, parce qu'on le sait, il manque de main-d'œuvre énormément, puis vous vivez aussi ces problèmes-là.
Exact, ouais, ça c'est. En ce moment au Québec, là, c'est extrêmement difficile. En fait, tu sais, c'est facile pour nous de trouver des employés pour des jobs à plus gros salaire, là, tu sais, des directeurs puis des directeurs financiers d'opérations, etc. Ça va parce qu'il y a du monde pour le marché, mais tous nos employés sur la ligne, là, c'est-à-dire nos gars, nos opérateurs de machines, les monteurs de commandes, les conducteurs de lift. Il n'y en a pas. Personne ne veut travailler en ce moment. Même si on augmente le salaire, le salaire minimum est rendu à 22$, je pense. Mais malgré ça, on a de la misère à garder notre monde. On y rentre. Pour vrai, c'est fou. Le monde rentre, puis ils disent qu'ils s'en vont aux toilettes, puis ils reviennent plus.
Oh
ou ils disent qu'ils s'en vont parquer leur auto, ils vont changer leur parking, puis ils disparaissent. En fait, il y a quand même une espèce de désengagement. Là. C'est complètement fou.
David Côté, c'est pas une image, ça. Chez Loop, vous avez vécu ça.
Ah oui, on a un poste en particulier là, qu'on a essayé 7 personnes dans les dernières 6 semaines. Puis 6 fois sur 7, la personne est partie sans nous le dire. J'ai l'impression que c'est la nouvelle génération avec les médias sociaux, avec l'espèce de vie de consommation dans laquelle on est. Il y a comme plus une espèce, tu sais, ça marche pas, je m'en vais, puis
d'habitude. Mais David, je suis curieux, le poste paye combien?
Ce poste-là paye 22$ de l'heure.
OK, donc c'est pas du salaire minimum.
C'est pas une question de salaire, non, c'est une question de job. C'est dans un frigo, il fait froid. Mais là, j'ai trouvé quelqu'un, là. Je suis content, là. Il a commencé à se me passer, puis je pense qu'il reste, mais c'est un exemple pour dire que c'est dur, toi, avoir de la main-d'œuvre au Québec en ce moment, là. C'est pas facile.
C'est absolument fascinant. Ben écoute, l'entreprise est en pleine croissance. Les jus sont un peu chers, mais écoute, le marché a parlé, puis les gens sont prêts à l'acheter. Félicitations et bonne chance.
Ah, puis on va s'arranger qu'ils diminuent. Plus un grandit, plus on peut baisser les prix.
Ça, bon, oui, ça c'est un principe économique. Merci beaucoup, David Côté. Merci. Salut.
Patrick Lagacé, en accéléré.
OK, c'est l'heure de parler avec Nancy Audet, qui est journaliste conférencière, ex-enfant de la DPJ, marraine pour la Fondation du Centre jeunesse de Montréal aussi. Et elle anime une nouvelle émission qui s'appelle « Être famille d'accueil ». Ça va être diffusé cet automne à la chaîne Moi et compagnie. Salut Nancy!
Salut Patrick!
Nancy, on s'est parlé il y a quelques jours de boxe. Et là, tu nous as dit, j'aimerais vraiment revenir à l'émission parce que je veux parler d'un problème là qui afflige le DPJ présentement. Ce sont les enfants qui sont en attente d'évaluation. Il y a 4000 enfants qui sont en attente. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus?
Ben, c'est énorme. C'est du jamais vu. Puis je me souviens qu'il y a quelques années, Patrick, avant que j'ose parler de mon passé d'enfant de la DPJ, ça a été long avant que j'accepte d'en parler. Tu le sais, hein, c'est des histoires qui sont un peu compliquées, qui sont difficiles. On a du mal à partager par rapport à ça. Je me souviens qu'à l'époque, je dormais pas bien parce qu'il y avait 1000 enfants qui étaient en attente. Et puis, je me disais, il va arriver quelque chose. C'est ça qui m'avait déterminée à parler. Et puis, quelques semaines plus tard, il y a une petite fille à Grimby qui est morte dans des circonstances terribles. Donc là, aujourd'hui, je vous parle 2 ans plus tard, puis il y en a 4000 en ce moment. Et ça, encore une fois, moi personnellement, Patrick, ça m'empêche de dormir en tant que journaliste, mais en tant que maman, en tant que Québécoise, je me dis, il y a 4000 enfants où il y a eu un signalement. On s'inquiète pour leur sécurité, mais on n'a pas le personnel actuellement pour aller évaluer leur dossier. C'est clair que parmi tous ces enfants-là, il y a des enfants qui ont besoin de nous en ce moment, des enfants qui ont besoin qu'on les protège, parce qu'on le sait qu'il y a un pourcentage important d'enfants, il y a des signalements parce qu'il y a des violences corporelles. Je sais qu'on n'aime pas ça, parler de ça, puis mon doux qu'on aime quasiment mieux ça, se boucher les oreilles, tout ça, se fermer les yeux, mais la réalité, c'est qu'il y en a encore beaucoup. Donc, des violences corporelles, de la négligence grave aussi qui met en danger ces enfants-là. Donc, je me dis, à partir de quand on va lever le drapeau rouge pour dire « Hey, il faut qu'on trouve des solutions, c'est urgent, parce que malheureusement, il va encore arriver quelque chose. » Puis encore une fois, on va dire « Ben, on a fait notre possible, mais on n'a pas réussi. » Mais combien de fois on va accepter qu'il arrive quelque chose à un enfant avant d'arriver, puis c'est maintenant qu'il faut trouver des solutions. C'est pas compliqué, là. Il faut qu'on trouve des solutions maintenant. Puis là, je vous parlerai pas du personnel qui quitte le bateau en ce moment, là, parce que ça, c'est terrible aussi. Il va falloir trouver une façon de faire de la rétention.
Mais en fait, Nancy, c'est difficile de parler de signalement en attente, puis pas de parler de rétention de personnel, parce que si tu manques de staff, tu pourras pas envoyer des employés faire des évaluations dans les familles.
Puis moi, on me dit qu'en ce moment, je parle avec plusieurs intervenants, et puis ils me disent tous la même chose, ils sont à bout de souffle, ils sont épuisés, ça tombe comme des mouches. Quand c'est pas des départs à la retraite, quand c'est pas des gens qui décident carrément de changer de carrière, ils sont découragés, ils sont plus capables de croire que les choses vont s'améliorer. Puis là, les gens sont tellement épuisés parce qu'on les oblige à faire du temps supplémentaire. Il y en a qui me disent on se sent coupable parce que les enfants ont besoin de nous. Donc, ça a un effet que même si on est épuisé, on n'est plus capable, on n'a pas le choix de rester. Les enfants ont besoin de nous. Ça, je vous parle des intervenants qui travaillent dans le système, qui évaluent les signalements, autant que les intervenants qui travaillent en ce moment en centre de rééducation. Il y a des centaines d'enfants au Québec qui sont en centre de réadaptation. Puis on me dit que c'est terrible la situation en ce moment là. Il y a quelqu'un qui quitte, qui donne sa démission. Il y a personne pour le remplacer là. Puis c'est pas aider les recrues aussi qui arrivent, les recrues qui arrivent dans le système, qui se rendent compte après quelques semaines, quelques mois que c'est invivable, puis qu'ils lâchent ça tout de suite là. C'est pas de les aider. Donc je sais pas quelle solution on va trouver pour convaincre les gens de se lancer dans cette profession là. Il y a un manque criant de personnel. Je pense qu'il va falloir se concentrer sur ceux qui sont là puis de les traiter comme il faut, Patrick, parce qu'ils ont, je pense qu'ils ont besoin là qu'on reconnaisse ce qu'ils font puis qu'on s'occupe d'eux en ce moment, parce que sinon ça va juste continuer. Ils vont continuer à partir, ces gens-là, puis les enfants ont besoin d'eux, puis nous aussi, je pense en tant que société, on a besoin de ces gens-là qui s'occupent des enfants qui ont connu de grandes difficultés, qui ont connu des traumatismes puis qui n'ont pas de famille actuellement.
Nancy, il y a aussi une pénurie de familles d'accueil. Ça, comment on explique ça?
C'est la même chose. Il y a beaucoup de familles qui ont décidé de quitter le bateau dans les dernières années. La pandémie a été difficile, là, y compris pour les familles d'accueil. Quand je parle aux différents syndicats, là, il y en a deux grands au Québec. On me dit qu'on a perdu énormément de familles. Et quand je lis dans les journaux, dans les dernières semaines, qu'on pensait en Mauricie ouvrir un foyer de groupe pour des bébés, pour des petits bébés de 0 à 3 ans, moi, ça vient me chercher profondément. C'est inacceptable. Je peux pas croire qu'on est rendu là. Quand je lis qu'on a loué un chalet parce qu'on sait plus où mettre les enfants, on les entasse dans des chalets, puis on se dit que ça va être temporaire, mais que finalement, 8-9 mois plus tard, les enfants sont encore là parce qu'on sait pas quoi faire des enfants. Parce que là, on n'a plus de famille d'accueil. Juste en Mauricie, en ce moment, il y a 100 places. On n'arrive pas à trouver de place pour les enfants. À Montréal, en ce moment, là, il y a tellement de demandes de placement pour les petits enfants de 0 à 5 ans et il n'y a plus de famille d'accueil. On ne sait plus où mettre les bébés, les petits enfants. C'est inquiétant. Puis je suis comme étonnée qu'il n'y a pas personne qui est sorti encore pour dire « Hey, il y a quelque chose de grave qui se passe en ce moment. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va. Honnêtement, je suis super inquiète. »
J'ai souvent entendu ça, que les critères sont extrêmement tatillons. Et si je me souviens bien, là, Mme Laurent, dans son rapport, avait abordé ça. Il faudrait peut-être mettre un peu d'eau dans notre vin à DPJ pour ça.
Ben oui, puis tu sais, ce qui est un peu particulier, c'est qu'on va être extrêmement exigeant envers les familles d'accueil, mais que souvent, Patrick, on va renvoyer des enfants dans des familles biologiques où ils ont...
Il n'y a rien d'optimal, mettons.
Il n'y a rien d'optimal, OK? Dans des familles, on va dire, inadéquates où il y a un climat très toxique, puis on va souvent... c'est pas un secret là qu'on il y a des enfants qui vont faire 3, 4, 5 familles d'accueil de suite. On les renvoie, on les ramène, on les renvoie. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir qu'on abaisse les critères parce que c'est quelque chose que j'entends continuellement. Il y en a des gens qui ont envie de devenir famille d'accueil au Québec. D'ailleurs, en ce moment, j'anime une série qui s'appelle Être famille d'accueil parce que j'avais envie avec ce projet-là de démystifier c'est quoi être famille d'accueil, c'est quoi les défis. Mais c'est quoi aussi les beaux côtés? Parce qu'il y en a. Il y a des gens qui sont familles d'accueil depuis 15 ans, 20 ans. Ben c'est parce qu'on s'accroche aux enfants qu'on arrive à aider, aux enfants qu'on arrive à sauver. Et j'espère qu'avec cette série-là, je vais pouvoir démontrer aux gens c'est quoi exactement être famille d'accueil pour des enfants de la DPJ. Parce que c'est triste à dire, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'enfants actuellement au Québec qui ont besoin d'une famille d'accueil. Et si je peux, grâce à cette série-là, convaincre des familles d'ouvrir leurs portes, d'accueillir des enfants sous leur toit pour leur offrir de la sécurité puis ce dont ils ont besoin, ben tant mieux. Mais moi, je suis en tournage depuis le début de l'été. Et même si je le sais, c'est quoi être en famille d'accueil, je l'ai été moi-même. J'ai appris beaucoup de choses, puis j'ai été très touchée, même bouleversée, non seulement par les parents de famille d'accueil, mais aussi parce que les enfants ont accepté de me parler, puis les adolescents ont accepté de me parler, c'était quoi pour eux être en famille d'accueil. Puis je pense que vous allez être surpris de leurs réponses. Les enfants, ils ont besoin d'un port d'attache, de ça dont ils ont besoin. Puis quand ils trouvent un port d'attache, ils sont pas mal plus solides dans la vie, puis ils sont pas mal plus épanouis.
Nancy, merci beaucoup. Et écoute, n'hésite pas, quand tu veux sonner des cloches à propos de la DPJ, fais-nous signe.
Merci, Patrick.
Salut.
Au revoir.
C'était Nancy Audet, animatrice, journaliste, conférencière, ex-enfant de la DPJ. Vous l'avez entendu, là, qu'il y avait, disons, des drapeaux rouges à lever sur ce qui se passe à la DPJ.
Patrick Lagacé, en accéléré. Vous voulez plus de balado? Abonnez-vous à Patrick Lagacé en accéléré sur Apple Balado, Spotify ou Google. Un balado C23 produit par le 98.5. Un nouvel épisode chaque soir en semaine vers 19h30.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.